Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue sur YogiBiz Podcast, je me trouve aujourd'hui en direct de Bali avec Marine Chapon. Marine est professeure de yoga, fondatrice du studio de yoga en ligne Ananda et de la communauté Luna. Au quotidien, Marine nous partage sur son compte Instagram, avec près de 30 millions d'abonnés, ses expériences de vie professionnelles et personnelles à la lumière de la philosophie du yoga, entre autres. Marine est digital nomade depuis plus de 2 ans et vit aujourd'hui à 100% du yoga en ligne. Alors, comment fait-elle au quotidien pour tracer son chemin vers le bonheur en faisant rimer productivité et épanouissement? C'est ce que je voulais découvrir aujourd'hui dans notre conversation. Vous apprendrez dans cet épisode quels sont ses secrets d'organisation au quotidien pour aller au bout de ses projets et continuer à développer son activité de yoga en ligne. Comment elle fidélise et attire de nouveaux élèves en continu dans son offre de membership. Les clés pour ne pas s'éparpiller et être efficace quand on a plein d'idées et qu'on crée autant de contenu. Est-ce que créer et produire autant, justement, sans rien déléguer, peut être compatible avec du temps pour soi? Ces pistes pour apprendre à nourrir notre créativité et enfin un exercice quotidien de journaling pour retrouver de la clarté et éviter de se sentir submergé. Avant de laisser place à l'interview, si toi aussi tu es prof de yoga et que tu veux travailler sur ta visibilité, je te rappelle que les masterclass de cet été sont de retour sur mon site yogibizcoaching.com. Si tu as besoin de te faire connaître et de trouver tes premiers élèves, cette formation, cette mini-formation gratuite est faite pour toi. Tu peux la télécharger en suivant le lien Masterclass offerte Booste ta visibilité sur mon site ou en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. C'est maintenant l'heure de te laisser inspirer. Je laisse tout de suite place à ma conversation avec Marine.
Bonjour Marine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBiz Podcast. Je suis un petit peu émue. Alors écoute, souvent tu nous partages un petit peu ton énergie et puis aussi un petit peu comment tu navigues dans l'impermanence des choses, de ton mood du moment. Donc j'avais envie de commencer cette interview en te demandant dans quelle énergie tu es actuellement. Alors peut-être aujourd'hui précisément, peut-être en ce moment par rapport à une période de ta vie ou peut-être même plutôt d'une manière générale par rapport à la période, alors peut-être la période un peu entre guillemets d'après Covid, la réouverture des frontières à Bali, mais aussi une période de fête qui arrive et je sais que toi tu es loin de la majorité de tes proches ou de ta famille. Donc voilà, j'avais envie d'avoir un petit peu ton énergie du moment, que tu la partages avec nous.
J'aime beaucoup cette question. Alors, disons déjà par rapport à toute la situation mondiale, on va dire quand même que Bali, je pense qu'on n'a pas vécu en tout cas la même chose que peut-être ce que vous avez pu vivre en France. Chance ou pas chance, je ne sais pas. Parfois, j'ai souvent l'impression qu'à Bali, on vit beaucoup dans une bulle au quotidien. Ce qui peut être chouette, comme voilà, on peut aussi trouver ses inconvénients. Dans ma vie aujourd'hui, moi, je suis plutôt dans une phase d'ancrage, une phase d'introspection. Donc, j'ai souvent des phases un peu comme ça dans ma vie, où là, en fait, ça fait 2 ans que je suis à Bali et je suis arrivée un peu à un point où je me pose la question de me dire, OK, what's next for me, tu vois? Je me dis, OK, j'accomplis plein de choses, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais au quotidien, mais comment on peut avoir des mais quand on vit à Bali, mais peu importe où on se trouve dans le monde, quand on est resté entre guillemets coincé au même endroit pendant 1 an, pendant 2 ans, parce que mine de rien, bah, on est un peu coincé là où on est. Alors on parle de prison dorée quand on est à Bali, c'est pas faux, mais en même temps ça reste entre guillemets une prison. Donc je suis un peu là en train de me poser beaucoup de questions, c'est pour ça que je trouvais que c'est drôle que tu me poses cette question aujourd'hui, parce que ça fait depuis une bonne semaine et demie que je suis rentrée dans cette phase de réflexion. Ça commence toujours par, je fais une pause, je ne cherche pas à réfléchir, je ne cherche pas à digérer quoi que ce soit, Je suis juste là et j'accueille tout ce qui se présente à moi en termes d'émotion, en termes d'énergie, etc. Et ensuite, une fois que tout ça s'est bien installé, ensuite, j'amorce ma phase de réflexion. Donc là, je suis clairement dans une très belle énergie, mais dans une énergie de changement.
Eh bien, on a hâte de découvrir la suite.
Je ne sais pas. Mais voilà, je n'ai pas encore. J'ai évidemment des pistes de mon côté de ce que j'aimerais. Je pense qu'on est tous humains dans tous les cas et que peu importe où on se trouve dans le monde, je pense qu'on a toujours besoin d'avoir des phases un petit peu de roulement.
Ouais, des cycles, avec des phases de changement. Un peu cyclique aussi quelque part.
Exactement. Moi, en plus, qui ai une personnalité, je suis assez aventurière. J'aime beaucoup explorer, j'aime beaucoup découvrir. Je suis célibataire, donc je n'ai pas d'attache. J'aime bien dire que j'ai pas d'attache parce que c'est vrai. J'ai souvent, et c'est, je m'en rends compte, 2-3 meilleurs amis ici, là. Mes meilleures amies, peu importe où je serai dans le monde, elles seront là, tu vois. Donc, j'ai pas d'attache au sens où ma famille est loin et j'ai appris aussi à vivre avec ma famille loin, avec la distance. Eux, peut-être un peu moins, je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai appris à vivre ça. Je suis quelqu'un de vraiment très indépendant. Donc voilà, je pense que quand on a la chance d'avoir cette liberté, d'être soi. Il faut saisir des opportunités aussi pour aller grandir ailleurs et pour aller apprendre d'autres choses et rencontrer d'autres gens et construire aussi des choses d'un point de vue plus personnel aussi.
Ouais. Et tu sais qu'au niveau astro, on rentre dans une nouvelle période avec une nouvelle éclipse. Alors, tu vois, peut-être aussi, ça correspond à peu près à cette phase de 18 mois, presque 2 ans.
Bon. Mais tu sais, c'est super amusant parce que depuis que je vis à Bali, de mois en mois, je me suis sentie beaucoup plus connectée justement aux énergies de la Lune et à tout ce qui se passait dans les astres. Et le moment où mon petit switch un petit peu mental s'est passé, c'était pile le 11 novembre, donc le jour du portail dont tout le monde a parlé justement dans les astres. Et c'est tombé vraiment ce jour-là. Bali, en plus, je ne sais pas si tu connais bien Bali, mais Bali, c'est une île quand même qui est très spirituelle. Il y a beaucoup de magie noire à Bali. Il y a beaucoup de gens aussi qui pratiquent différentes techniques spirituelles qui font bouger beaucoup d'énergie. Donc, il se passe beaucoup de choses et je pense qu'il se passe encore plus de choses à Bali.
Ah, c'est génial, ouais. J'ai hâte de découvrir. Écoute, j'espère pouvoir venir maintenant que les frontières sont ouvertes, notamment faire mon yoga teacher training à Bali. Donc, effectivement, on ressent en tout cas dans ce que tu nous partages, toi, cette atmosphère quand même, que ce soit de la nature, soit effectivement des traditions plus spirituelles. C'est vrai qu'en te suivant, on a déjà un bon aperçu. Enfin, tu nous retransmets bien cette atmosphère qu'on peut trouver là-bas. Donc, c'est chouette. Et du coup, t'as quand même en partie répondu à ça. Mais justement, je me posais la question de savoir comment tu décrirais la marine qui a quitté la France il y a 2 ans et puis la marine d'aujourd'hui. Même si tu vois là, par exemple, tu nous dis que tu es beaucoup plus connectée, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont vraiment changé? Comment tu as évolué? Et puis après, j'aborderai plus la partie aussi de ton activité en ligne, parce que forcément que ça a dû contribuer à ton évolution et à tes changements. Mais sinon, toi, qu'est-ce que tu dirais?
Alors, il faut savoir que quand j'ai quitté la France, j'étais vraiment au point zéro, page complètement blanche.
Ouais.
J'ai tout quitté, encore une fois, parce que je ne sentais plus d'attache, je me sentais connectée à rien, à personne. Mes meilleures amies, mais pour moi, comme je te disais, n'importe où je suis dans le monde, mes meilleures amies, elles sont connectées à moi, ça ne change rien. Donc, je suis partie avec mon sac à dos, une page blanche et absolument tout à écrire. Donc, je me décrirais à l'époque comme jeune. Comme fragile, comme incertaine, comme apeurée, comme tous les termes en fait qu'on peut utiliser quand on va juste drastiquement changer sa vie. J'avais pas confiance en moi, je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire, mais j'y allais, ça c'est sûr, j'y allais. Et aujourd'hui, je te dirais que j'ai confiance en moi, que je suis alignée avec ce que je fais, que j'ai vraiment développé. Je pense que j'avais déjà beaucoup de courage, mais avec un courage un peu fragile, je dirais. Aujourd'hui, je pense que j'ai une vraie force à la fois physique, mentale, psychologique. Aussi parce que je suis partie, j'avais 28-29 ans. Là, je vais avoir 31 ans, donc il y a aussi ce passage à la trentaine qui fait que je pense que tu t'assagis aussi beaucoup. En 2 ans, je pense que j'ai jamais aussi vite grandi et autant grandi que ce que je l'ai eu fait dans ma vie. Parce que c'était beaucoup d'épreuves, c'était beaucoup d'obstacles, beaucoup de remises en question, beaucoup de pleurs, plein de choses qu'on voit pas. Vraiment, c'est plein de choses qu'on voit pas sur les réseaux sociaux. Pas parce qu'on le cache, mais tout simplement parce que c'est un vrai parcours individuel et personnel. Et il y a plein de doutes, comme tu le disais. Bah, y a la famille, il y a les parents qui s'inquiètent, il y a l'argent, j'ai pas de travail, qu'est-ce que je fais, en fait? Et bon, moi, c'est vrai que je suis sagittaire, donc j'ai un côté très aventurière et à la fois, je ne lâche rien. Donc, comme je ne me voyais pas rentrer en France, c'est pour ça que je suis restée à Bali. Enfin, j'ai fait Bali et l'Australie, je suis revenue à Bali. Oui. Je suis revenue à Bali parce qu'en fait, pour moi, c'était juste comme si tu disais, OK, bon, bah, je rentre chez moi et puis on verra bien ce qui se passe. Il faut savoir que Bali, d'ailleurs, pour toi ou pour n'importe qui est intéressé pour venir à Bali, c'est super de rester un mois, de vivre une expérience. C'est sûr, vous allez vivre un truc incroyable. Rester un an, rester 2 ans, ça c'est encore un autre niveau d'expérience. Bali, c'est quelque chose qui se vit quand tu décides de t'y installer vraiment comme un chapitre. C'est obligatoire. Si tu viens à Bali pour t'installer, tu vas vivre quelque chose de transformateur. Parce que y a des gens qui viennent de partout dans le monde, de plein d'horizons. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le coach, comme je te disais, dans la spiritualité. Le yoga, c'est même pas le truc le plus prédominant. C'est présent parce que ça fait aussi partie de la culture et de l'aspect spirituel. Donc, évidemment, si tu aimes le yoga, tu vas trouver de quoi faire en yoga. Mais il y a, pour moi, c'est vraiment un vrai développement personnel qui se fait à Bali. Et c'est pour ça que je te disais, dans ma réflexion à moi, où j'ai la sensation que moi, aujourd'hui, ce développement personnel, il est largement avancé pour ce qu'il y a à faire à Bali et qu'il y a besoin maintenant d'ouvrir un autre
Next chef. Step. Ouais.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Donc, une expérience finalement super transformatrice. Et puis, du coup, tu parlais de ta page blanche. Donc, je crois que tu l'as bien écrite d'un point de vue personnel. Et j'avais envie aujourd'hui aussi d'aborder effectivement donc d'un point de vue professionnel parce que tu vis aujourd'hui, je crois, à 100% en tout cas de ton activité de yoga en ligne. Et donc, bah, c'est encore plus intéressant de savoir que tu es partie de zéro parce que souvent, la question, c'est bah, par où démarrer et puis surtout, comment aller au bout finalement, donner vraiment naissance à un projet et à un projet viable. Et puis, alors après, tu l'as dit, mais je pense qu'effectivement, oui, il faut avoir le courage de tenir ce projet, d'aller au bout, de surmonter des obstacles. J'aimerais bien que tu nous parles de tout ça parce que j'imagine que tu as traversé ça aussi dans ton activité pro. Donc, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place justement ben, pour aujourd'hui en arriver à vivre de ton activité de yoga en ligne?
Alors, je vais être complètement transparente. C'est le but.
On aime.
Je vais être complètement transparente, en fait. Alors, moi, j'ai été chef de produit marketing dans ma vie d'avant. J'étais principalement dans de la créa. Donc, pour moi, tout ce qui est aspect vente et business, c'est non seulement quelque chose dans lequel je suis très mauvaise. Là, tu vas dire, ah bon? C'est vraiment quelque chose dans lequel je suis très mauvaise. Et c'est quelque chose que je n'aime pas. Et quand j'ai choisi de quitter mon métier de chef de produit pour devenir professeur de yoga, c'était justement dans ce but de ne plus être dans une démarche business. Voilà. J'ai grandi aussi et je me suis aussi rendu compte que tu peux avoir un métier riche, utile, beau, inspirant, apporter quelque chose aux autres et en vivre. Ça, c'est encore... Maintenant, ça a processé depuis quelques mois, je dirais. Que c'était OK, en fait, de faire payer les gens. Parce que moi, dans mon monde des bisounours, j'aimerais que tout soit « je te donne et tu me donnes ». On reçoit chacun et on ne parle pas d'argent. C'est peut-être après moi ma relation avec l'argent qui peut-être est compliquée, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a toujours été compliqué pour moi et je pense une chance aussi parce que je suis persuadée que quand tu fais quelque chose et que ça vient du cœur, quand tu te détaches de... une performance, un chiffre, de l'argent, toutes ces choses dans la philosophie du yoga qu'on définit comme des choses finalement qui sont à la racine de tes souffrances. Bah, quand tu te détaches de la jalousie, de la comparaison, de l'avidité, de toutes ces choses-là, que tu fais les choses vraiment avec le cœur, avec la passion, je pense que ça ne peut que marcher en fait. Et c'est, si moi je dois donner un conseil pour lancer un business dans le yoga, c'est juste, si t'es passionné, fais-le, continue de le faire, et ne te dis pas que c'est pas parce que tu n'as pas 10 000 abonnés, que tu ne vas pas pouvoir gagner ta vie. C'est plus intéressant d'avoir 1 000 abonnés et 50 élèves que d'avoir 10 000 abonnés et d'avoir 2 élèves. Tu vois,
ouais.
C'est un truc que j'ai appris aussi sur mon chemin, c'est qu'il y a une différence entre le nombre d'abonnés et le nombre d'élèves, le nombre de connexions que tu vas créer vraiment avec les gens.
Tout à fait, ouais. J'en parle assez souvent, effectivement, de ne pas confondre, entre guillemets, effectivement, les abonnés et l'audience qualifiée, donc de gens susceptibles, voilà, d'avoir envie de travailler avec toi, de s'engager avec toi, d'interagir avec toi. Et du coup, voilà, de prendre des cours avec toi, etc. Et souvent, il y a un peu confusion parce qu'en fait, il y a aussi la confusion entre les influenceurs et le fait d'avoir un business et d'être, voilà, entrepreneur. Donc, voilà, on essaye d'éclaircir ces concepts assez régulièrement. Donc, du coup, pour toi, ce qui t'a permis vraiment aujourd'hui de développer ton activité et de mettre et d'avancer dans ces projets, c'est pas forcément ton background marketing, du coup, puisqu'effectivement, tu étais plus sur une partie créa, mais c'est beaucoup, du coup, bah, la passion. Et puis, peut-être quand même un petit peu ce tempérament aussi de vouloir aller au bout des choses. J'imagine que, enfin, à un moment donné, on peut être passionné, mais je pense aussi que... il faut rendre pragmatique tout ça. Enfin, il faut que tout ça se concrétise par des plans, par des objectifs, par des deadlines. Mmh. Sinon, je pense qu'on peut vite s'éparpiller, peut-être.
Ouais, je reviens sur ce que tu disais. C'est pas grâce à ton background marketing. Je pense quand même que c'est aussi grâce à mon background marketing parce que mine de rien, tu vois, j'ai fait un IUT Tech de Co, j'ai fait une école de commerce, donc pendant, je dirais, à peu près 8 ans. Plus de 8 ans, en fait,
oui.
Il y a peut-être même au total une dizaine d'années où finalement mon esprit, il a été formé quand même à avoir une démarche business. Même si c'est juste pour éclaircir le terme business, en fait, c'est pas forcément argent que j'associe à business, c'est plus management de projet, construire, développer, créer, etc. Clairement, mon background m'aide aujourd'hui. J'aide aussi des amis quand elles sont un petit peu perdues parce que pour moi, c'est des choses... c'est des choses qui sont logiques. Oui, j'ai ce qu'on appellerait un plan marketing, évidemment. Mais moi, ce que je dis, bah non, c'est juste j'ai tellement d'idées qu'en fait, il faut que je les mette à plat et il faut que je les classifie dans un calendrier pour déjà pas noyer mes élèves parce que sinon, ils vont jamais suivre. Ouais. Et puis, moi aussi, pour avoir un rythme qui soit soutenable, que ce soit dans pour mon cerveau, parce que j'ai un cerveau tellement créatif qu'il faut que je le calme des fois. Et si je mets pas les choses sur le papier, et ça, c'est un truc que j'encourage à faire, tout mettre sur le papier. Les idées, même si elles arrivent en vrac, les laisser en vrac et ensuite les organiser. Parce que pourquoi je fais autant de choses? Pourquoi j'arrive à faire autant de choses et être seule? Parce que je travaille complètement toute seule.
Oui, tu
parce que je suis organisée.
Ouais. La force de l'organisation. Et du coup, justement, ouais. C'était un sujet alors que j'avais prévu d'aborder un petit peu plus tard dans l'interview, mais on va, comme on est dedans, on va en parler. Justement, c'était un sujet, comment tu fais pour organiser voilà, à la fois bah, tout le contenu que tu dois produire pour ton membership, enfin pour ton abonnement, pour le studio. Du coup, donc bah, y a des vidéos, tu dois prévoir des lives, puisque je fais partie de ton studio, je sais aussi voilà, que tu crées un e-book chaque mois pour présenter les nouveautés, etc. Donc, il y a tout ça. Il y a le fait aussi parfois de décorer des vidéos de l'abonnement pour les transformer entre guillemets en programme. Donc moi je sais ce que ça veut dire, ça veut dire bah quand même une page de vente, ça veut dire quand même voilà un moyen différent d'accéder à ce produit là donc il faut créer tout ce tunnel de vente entre guillemets, si j'utilise des mots un peu techniques, et puis il y a aussi toute ta production de contenu autour, donc tes vidéos YouTube, tes posts Instagram, je crois que tu postes tous les jours, t'es très présente en story. Alors justement, c'est quoi le secret de l'organisation? Bah oui, tu vois, enfin quand on est du métier en plus, enfin très clairement on peut faire la to-do et on se dit non mais Voilà. Et alors, le paradoxe, hein, mais on y reviendra après, c'est ton podcast « Faire rimer productivité avec bonheur » qui m'avait beaucoup interpellée. Et c'est de là, justement, que j'avais eu envie de t'interviewer aussi, parce que faire moins mais mieux, c'est aussi des sujets qui me passionnent. Mais donc, bon, là, il y a un secret, il y a une clé, il y a une organisation, il y a quelque chose. Donc, alors, je pense qu'on a tous envie que tu nous partages ça.
Je vais te dire un truc, et ça, c'est... En fait, je pense vraiment, c'est vraiment un trait de ma personnalité, parce que je sais que même dans tous les stages en entreprise que j'ai fait, à chaque fois, mon maître de stage me donnait un truc. Je pense que je revenais peut-être une heure après et il me disait, mais t'as pas fini. Si c'est fait aussi vite, c'est bâclé. Il regardait, c'était parfait. Et il me dit, mais Marine, je vais te donner autre chose à faire. Cette fois-ci, tu ne reviens pas avant demain, en fait. Je n'ai plus rien à te donner. Et en fait, c'est vraiment... quand je fais quelque chose, déjà je suis très efficace. Je suis quelqu'un d'hyper, je fonce en fait. Et je pense que c'est, je me laisse pas distraire. Je sais aussi que mes potes ici, quand ils veulent bosser, être concentrés, ils me disent Marine, on peut faire une petite session de coworking parce que quand je suis avec toi, ça m'inspire. T'es tellement concentrée en fait que bah du coup moi aussi ça m'aide à me concentrer. C'est-à-dire que moi, je pense aussi, je suis quelqu'un qui protège beaucoup aussi mon environnement. Et quand je décide de travailler, je travaille. Quand je décide de m'amuser, je m'amuse. Je passe beaucoup de temps à travailler parce que je suis quelqu'un qui adore mon travail. Alors oui, on peut parler de workaholic, qu'est-ce que tu veux. Peut-être, c'est vrai que j'ai des phases potentiellement où je travaille un petit peu trop. Il faudrait que je trouve justement un petit peu plus d'équilibre. Et ça, c'est des choses que j'intègre un petit peu plus maintenant dans ma vie de tous les jours. Et me dire que peut-être un jour je pourrais déléguer des choses et que voilà, mais je pense être concentrée sur ce qu'on fait, une tâche à la fois, mais c'est pas de faire 15 choses à la fois. Moi je vais être très très simple, j'ai un carnet qui a incarné un agenda, j'ai un stylo et j'ai un stabilo. Donc dès que j'ai une idée, je la planifie en fait. Ok, donc je veux tourner une vidéo à la plage. Ok, je veux que ma vidéo, elle sorte tel jour. J'ai un calendrier, je fais des calendriers. J'ai un calendrier pour le studio et puis j'ai un calendrier pour YouTube, par exemple. Mm-hmm. Post Instagram, je le fais au cœur. Voilà, mais c'est vrai que j'aime bien être présente tous les jours, mais il n'y a pas de... Voilà, je poste comme ça, j'ai du contenu, bon, bah chouette. Donc, j'ai une idée, je me dis, ok, où est-ce que je vais la mettre en termes de date? Ok, je veux qu'elle sorte ce jour-là. Donc, je fais mon petit rétro-planning. Et je me dis, ok, j'ai besoin d'à peu près, une semaine pour tourner, éditer, faire une vidéo si j'ai besoin de faire une vidéo. Donc, je fais mon rétro-planning et je me dis, ok, bon, bah, il faudrait que au plus tard, je commence à shooter telle date. Et je me dis, ok, bon, bah, alors du coup, qu'est-ce que je fais? Je shoote plutôt que ma date butoir. Comme ça, si j'ai un contretemps, s'il y a quelqu'un qui me contacte pour faire une interview, n'importe quoi. Bref, et ben en fait, je peux m'octroyer cette marge de liberté de me dire, oui, ok, pas de souci. Et ne pas être stressé. Parce qu'en fait, le problème, quand tu es auto-entrepreneur et que tu n'as pas cette discipline-là, que tu n'as pas ce calendrier, en fait, tu laisses vite les jours et les semaines passer et tu ne crées pas de contenu. Et c'est un petit peu, j'ai envie de te dire, la loi du plus présent quand tu es sur les réseaux sociaux, parce que c'est devenu ça. Si tu n'es pas présente en continu, bah après, tu es vite étouffé par l'algorithme et puis après, on ne te voit plus. Alors moi, je suis pas à la course à ça. Encore une fois, je suis quelqu'un de très créatif. J'adore créer. J'ai toujours des idées. Donc, tant que j'ai des idées, je les fais voir le jour. Enfin, il y a pas de choses la plus belle qui soit que d'avoir une idée et de pouvoir lui donner vie. En fait. Ça, c'est un truc que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que quand t'es ta propre boss, ton idée, tu veux qu'elle existe, et ben elle existe. Voilà. T'as personne qui va te le valider. Il y a personne qui va te dire quoi que ce soit.
Et je suis super d'accord avec ça. Par contre, je pense que justement, c'est là où il faut être bien organisé de manière à noter son idée et à savoir prendre le temps, se dire « Ok, j'ai tout mon temps, c'est mon entreprise, je peux la créer dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, elle est là, je vais la faire grandir. » Et je pense que souvent, le risque, c'est justement, on s'éparpille et finalement, on devient vite submergé ou alors on aboutit, rien n'aboutit. Parce qu'on veut tout faire en même temps. Et donc, moi, j'aime bien cette idée aussi, un petit peu, dès que j'ai une idée qui pop, voilà, de la placer dans un calendrier, comme tu as dit très justement, ou en tout cas de la noter, mais d'y revenir plus tard, enfin, d'y revenir au bon moment ou d'y revenir, peut-être que tu fais des sessions un peu plus où tu as une vision macro de ton business et que tu es moins dans l'action de faire. Et donc, au moment de ces sessions-là, justement, de réflexion, c'est-à-dire, OK, ben, je pose cette idée où, quand est-ce que c'est réellement faisable, quand est-ce que je vais pouvoir me focuser effectivement dessus. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'effectivement, justement, souvent les profs de yoga se disent multipassionnés avec pas mal aussi d'inspiration et de créativité. Mais je pense que le fait de vouloir tout faire en même temps et d'être pressé de faire, alors que pour moi, chaque prof de yoga est unique, ce qu'elle veut transmettre est unique, la forme qu'elle va mettre, etc., est unique. Donc, ce projet, c'est pas grave si de la pavie tout de suite, demain, après-demain, il aura sa place aussi dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois. Et ça, souvent, il y a un peu la confusion entre avoir des idées et la précipitation, entre guillemets, aussi à les réaliser.
Je pense que, tu vois, moi, quand j'ai commencé, c'est mettre à plat les choses, c'est toujours quelque chose qui m'a aidé à me dire, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Il y a des choses, en fait, je trouvais ça chouette, mais je les ai pas fait parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, ça, c'est pas cohérent avec ce que tu donnes et ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça a rien à voir avec la soupe, donc, tu le feras pas. C'est aussi de se poser la question, OK, j'ai une idée, à quoi elle va me servir cette idée?
Oui.
Tu vois, c'est-à-dire que, OK, je veux faire un cours sur ça, mais à qui il va s'adresser? Sur quelle plateforme je vais le mettre? Pourquoi je vais choisir ça? En fait, tout doit quand même avoir un sens, en fait. Parce que les gens, il faut qu'ils s'y retrouvent, il faut qu'ils comprennent le message que tu as envie de leur envoyer. Donc, il y a un certain contenu qui ira mieux sur YouTube, il y a un certain contenu qui ira mieux sur Instagram, il y a un certain contenu qui ira mieux sur un produit que tu vends. Tu vois, moi, aujourd'hui, c'est pour ça qu'au début, quand tu commences et que tu as envie d'être plus visible, bah, tu vas en effet aller sur différentes plateformes. Mais je pense qu'à un moment, et c'est ce que j'ai fait, une fois que j'avais un peu de visibilité, je me suis dit, OK, moi, maintenant, mon but, c'est de me concentrer sur mon studio. Donc aujourd'hui, tout ce que je crée, 90% de ce que je crée, va dans mon studio parce que c'est, je rends à mes élèves ce qu'elles me donnent. Et je fais grandir quelque chose, un produit sur lequel je concentre tout mon temps, toute mon énergie, toute ma créativité pour le faire vivre et pour le faire grandir. Ça sert à rien d'avoir 10 produits ou 10 ce que tu veux. Et en fait, de donner un dixième de toi dans chacun des 10 produits. C'est mieux d'avoir un truc, de commencer avec un truc, de dire, OK, moi, mon objectif, ces 3 prochains mois, c'est Instagram. Basta. Tu vois? Tout donner et être présente et voilà.
Tout à fait. Bah, je suis très contente d'entendre ça. Je pense que mes élèves, en tout cas, reconnaîtront certains de mes discours. Mais pour reprendre ce que tu nous disais en termes d'organisation, moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est le pouvoir du focus quand même, du manière générale, de la concentration. Laisser la place aux imprévus, effectivement. Et ça, souvent, on a tendance à être trop optimiste sur nos journées, sur nos semaines, sur nos mois. Donc, j'aime bien, effectivement, l'idée de laisser de la place à l'imprévu. Ou même, je dirais, au début, quand on ne sait pas vraiment estimer encore le temps, par exemple, qu'enregistrer une vidéo va nous prendre ou quoi, ne pas hésiter. Alors, même s'il ne faut pas laisser trop de place au temps, parce que sinon, effectivement, on le prend. Mais voilà, savoir aussi se laisser respirer pour mener ce projet à bien. Et puis aussi, j'aime bien l'idée du rétro-planning parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme ça qu'on va réussir à planifier les choses avec cohérence et du coup, aller au bout de nos projets. C'est toujours important, je pense, de mettre une deadline. Et là, la dernière clé que tu viens de nous donner, c'est effectivement que ce qu'on fait réponde quelque part à un objectif, à là où on veut aller. Et par exemple, aujourd'hui, toi, effectivement, c'est d'alimenter ton studio et quelque part, tout ce que tu crées, enfin, à un moment donné, il y a quand même aussi des appels à l'action qui renvoient vers ton studio. C'est-à-dire, c'est au service de cette offre, de cette offre, parce que c'est quelque part ton offre signature, celle sur laquelle tu concentres tout ton focus. Donc voilà, donc je crois que ça fait déjà quand même 4 bonnes pistes d'organisation. Puis j'aime bien l'idée du carnet, du stylo et du stabilo parce que je suis aussi un petit peu pour une organisation simple. Parce que sinon, on passe plus de temps à remplir des outils d'organisation et management de projet que finalement à être dans l'action. Donc tout me va, Marine. Je suis en adéquation.
Et je te dis, mais je te rajoute même un petit truc par rapport à ça, c'est que tu sais, on parlait d'avoir plein d'idées et de les noter. Et ben, tu vois, ça m'arrive de noter des idées à faire dans un mois. Et quand j'arrive à dans un mois, je vois l'idée notée, je dis non, ça c'est plus d'actualité, je le supprime. Soit parce que j'ai plus envie, soit parce que j'ai pas le temps et parce que c'était pas prioritaire. C'est prioriser aussi les choses en fonction de tes objectifs. Mais bon, comme tu l'as dit, tout part de l'objectif de base.
Ouais, c'est ça aussi, savoir où on veut aller et du coup, qu'est-ce qu'on met au service de cet objectif, de là où on veut aller. Et voilà, et ça veut dire aussi ne pas forcément toujours répondre à toutes les opportunités, ne pas dire oui à tout, justement, parce qu'il y a aussi ça, le côté, des fois, on peut être tenté de se disperser pour répondre à des demandes, mais est-ce que ça sert mon objectif final? Est-ce que ça va être au service de tous les élèves avec lesquels j'ai envie de travailler, etc. Donc vraiment, c'est aussi savoir dire non dans l'optique d'éliminer le superflu et de savoir effectivement gérer ses priorités. J'aime bien cet aspect parce que je parle souvent d'un business minimaliste. Donc, je crois que tu es un petit peu dans ce là-dedans aussi, quoi, vraiment d'aller à l'essentiel et d'éliminer le superflu. Et d'ailleurs, donc juste pour rebondir sur ton épisode de podcast donc qui était « Faire rimer productivité avec bonheur » qu'on peut retrouver donc sur ton podcast « Off the Mat », est-ce que justement, donc créer et produire autant, est-ce que c'est compatible avec du temps pour soi? Est-ce que tu arrives quand même à prendre du temps pour toi? Comment tu fais pour préserver des moments comme ça, pour te couper de tout ça, du travail, du contenu?
Alors déjà, je me suis rendu compte que quand tu coupais, c'était là que tu avais plein d'idées. Donc, si tu veux avoir des idées, si tu veux continuer d'être créative et productive derrière, c'est important de faire des breaks parce que qui dit à fond, dit tête dans le guidon et dit je vois absolument plus ce qui se passe autour de moi et finalement, tu manques plein de choses, plein d'idées, plein de belles choses que tu pourrais créer. Au tout début, quand j'ai commencé, je vais pas mentir, au tout début, quand j'ai commencé, je bossais vraiment tout le temps. Je bosse encore énormément. Mais je m'accorde, je m'accorde un jour complètement où je ne travaille pas dans la semaine. Ça, c'est il y a un jour. Généralement, c'est soit le samedi, soit le dimanche en fonction de mon énergie. Tu vois, la semaine dernière, c'était le samedi. Et en fait, je me rends compte en plus quand je prends un jour off, après, à quel point j'ai envie de retourner travailler après. Tu vois ce que je veux dire? Tu pètes un plomb à la fin de la semaine, vite, il faut que je prenne un jour de pause, tu prends ton jour de pause, oh là là, j'ai tellement hâte de retrouver mes élèves,
c'est
de
moi aussi,
faire mon live et de créer, oh tiens, j'ai une idée, etc. Donc ouais, c'est déjà se discipliner sur prendre une journée, même quand tu sens que t'en as pas envie / besoin. Et après, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'alterner entre la théorie, entre guillemets, la pratique, c'est-à-dire que j'ai toujours une demi-journée où je vais être plutôt dans l'enregistrement, dans l'action, je vais faire mes courses, généralement l'après-midi, c'est là où je me pose avec mon ordinateur et que là, je fais plus, tu parlais de tunnel de vente, donc je prépare mes pages ou je prépare mes e-books, je réfléchis à des idées, j'écris, etc. Donc, c'est finalement trouver un équilibre un petit peu dans tout ça.
Oui, c'est plus les tout ce qui est actif, en fait, pour toi, ça va être plutôt le matin et du coup, ce que j'appelle passif, hein, c'est du travail peut-être, où effectivement, on est moins dans l'action, c'est pas pour ça qu'on fait pas, mais du coup, plutôt l'après-midi. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est l'organisation en demi-journée. Je le préconise beaucoup aussi et moi, je suis un petit peu comme ça et aussi choisir, en fait, en fonction de son énergie, effectivement, si on va faire plutôt les rendez-vous, comme tu dis, les enregistrements de vidéos, les interviews comme là, par exemple, plutôt le matin, si c'est la priorité pour nous. Par exemple, toi, en tant qu'invité, effectivement, c'est plutôt quelque chose, entre guillemets, de passif pour toi. Tu vas faire l'après-midi, par exemple, pour cette interview. Et moi, en revanche, c'est quand même le socle de mon contenu. C'est important pour moi de faire ça le matin. Et à l'inverse, je vais plutôt être dans le montage l'après-midi. Donc, effectivement, c'est vrai que... Et quelque part, on retrouve un peu l'idée du batching aussi quand on fait ça. Donc, il y a à la fois, je pense, essayer d'organiser en fonction de l'énergie que chaque action va demander, plutôt le matin ou plutôt l'après-midi. Et puis, regrouper aussi les tâches. Je ne sais pas si toi, tu fais aussi du batching comme ça, c'est-à-dire enregistrer peut-être plusieurs vidéos d'un coup ou créer, faire un peu plus de création. Est-ce que tu fais ça?
Alors, autant j'aime filmer, autant je suis incapable de filmer beaucoup de vidéos à la suite. Ça, je vais être, c'est un truc vraiment, ça me prend trop d'énergie et à la fois, je vais utiliser le terme brut, au bout d'un moment, ça me saoule. Et j'ai pas envie d'être saoulée, parce que je pense que l'énergie, elle se ressent dans une vidéo. Donc, moi, ce que je fais, c'est je vais tourner une, voire deux maximum vidéos à la suite. Mais ce sera des vidéos qui vont être en dessous de 30 minutes.
Oui, ça dépend du temps aussi des vidéos,
ouais. Ouais. Et généralement, bon, c'est vrai que Bali, en fait, c'est une île qui est assez bruyante et on sait jamais comment le temps va être dans la journée, la lumière, les gens autour, etc. Donc, généralement, je sais que ça paraît un petit peu dingue, mais moi, je tourne mes vidéos entre 6h et 7h du matin.
Donc,
je préfère, ouais, je suis tranquille, il n'y a pas de bruit, la lumière, elle est bien. Moi je suis une lève tôt donc ça me pose pas de problème et en fait je préfère en faire 7 dans la semaine donc un par jour
oui.
une par jour pardon que d'en faire 7 dans une journée et après me dire ok ensuite je suis lessivée, je suis éclatée, j'ai plus envie de tourner pendant 3 mois et après je passe à l'édit, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Je préfère vraiment faire en fonction de la mood et puis après c'est une question de rythme, on prend l'habitude et c'est comme ça que j'arrive à anticiper autant parce que je me dis oh tiens aujourd'hui j'ai bien envie de tourner une petite vidéo, ah bah tiens en novembre bah, je vais commencer à tourner, janvier c'est pas grave, ce sera fait et ce sera là et l'énergie elle est là en fait. C'est vraiment ça veut pas dire, c'est pas parce que tu crées beaucoup qu'il faut que tu balances tout d'un coup en fait, tu peux créer beaucoup et tu peux te garder en fait des petites réserves.
Et par contre, tu connais quand même voilà, tes moments d'énergie où tu sais adapter aussi les moments propices. Ça, je pense que c'est super important. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais aussi, quand j'ai l'idée d'une vidéo, etc., est-ce que tu as une date de sortie fixe, par exemple, pour ton contenu gratuit? Donc, par exemple, pour tes vidéos YouTube, à l'époque, c'était pour tes épisodes de podcast. Est-ce que tu penses que c'est mieux de privilégier tel jour, telle heure, ne serait-ce aussi que pour créer peut-être l'habitude et l'attente chez ton audience? Ou est-ce que tu penses qu'on peut y aller un petit peu dans le flow, quoi? Voilà, je crée une vidéo, je la lance à partir du moment où on reste quand même sur quelque chose, on va dire, de régulier, mais pas forcément en s'imposant une date et une heure.
Non, ça, je pense que c'est pas. Après, c'est bien si t'as une audience, c'est bien de sonder ton audience en fait. Quel jour vous préférez en fait? Est-ce que, par exemple, moi, je poste des flows de yoga. Donc, si je poste un flow de yoga, il y a peu de chances que j'irai. Disons qu'il y a moins de personnes qui vont le pratiquer le mardi ou jeudi. Il y a peut-être plus de personnes qui vont dire ah tiens, c'est le week-end, je vais me faire un petit flow de yoga. Il y a un nouveau flow de yoga qui vient de sortir. Donc, en effet, les flows de yoga, je vais plutôt les poster soit le mercredi, soit le week-end parce que c'est le moment où mes élèves vont avoir le plus de temps. Après, c'est parce que c'est moi, je l'ai construit comme ça par rapport à mes élèves et par rapport à ce qu'elles me demandent. Après, ce que je pense, et tu l'as très bien dit, le plus important, c'est la régularité. Donc, c'est mieux d'avoir un rendez-vous hebdomadaire. Tes élèves, ton audience, peu importe, connaissent ce rendez-vous. Ils savent que ça va sortir tel jour, donc ils vont attendre que ce jour-là, ça sorte, tu vois. Et je pense que, en plus, la régularité, c'est quelque chose, ça marche aussi bien pour la discipline, comme on le disait tout à l'heure.
Ouais.
La régularité, c'est ça qui va faire que tu vas construire une communauté. Et quand je parle de communauté, je parle aussi d'élèves, surtout pour moi, parce que 100% de mon travail aujourd'hui, c'est en ligne. Mais quand je parle de communauté, c'est aussi des nouvelles élèves. Quand tes élèves, elles savent quand ça sort et quand c'est là, et ben, elles sont là, quoi. Ouais. Et le studio, c'est un petit peu différent. Le studio, comme je poste parfois une vidéo, parfois deux vidéos, parfois trois nouvelles vidéos dans la semaine sur le studio, moi, je les organise en amont. Elles ont un calendrier, elles savent qu'il y a des nouvelles séances qui vont sortir, mais j'ai pas ce côté quel jour je vais poster pour qu'il y ait plus de gens qui l'aient. Je sais que de toute façon, elles vont l'avoir, donc j'essaie au contraire, tu vois, de répartir de façon un peu sympa pour qu'elles en aient un petit peu tout le temps en continu.
Et juste
aussi
tout à l'heure,
à la place des autres, en fait. Hein.
Oui, oui, non, mais carrément, c'est exactement ça. Hein. On est là aussi, effectivement, pour servir ben, nos élèves, justement, qu'est-ce qu'elles ont besoin, à quel moment, etc., ou qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et du coup, juste pour rebondir, ce que tu disais, c'est vraiment, tu l'as dit plusieurs fois, je travaille quand même beaucoup, je travaille quand même beaucoup. Tu travailles combien d'heures par jour en moyenne?
Et là, tu sais quoi? Je me disais, à la fin, je me disais, en fait, je crois pas que je travaille tant que ça. Ça va dépendre des jours. Bah, après, voilà, quelle est la définition de travailler beaucoup, travailler peu? Une grosse journée, une vraiment grosse journée, laptop, machin, tout ça. Sept heures. C'est le maximum que je travaille sur une journée, ça va être 7 heures. En comptant mes cours privés, en comptant les enregistrements, en comptant tout, ça va être 7 heures. Après, je suis un peu plus dans une moyenne de 5 ou 6 heures par jour. Et ça peut m'arriver de travailler 4 heures dans la journée, en fait. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Ça peut m'arriver de travailler qu'une heure. Tu vois, hier, on était dimanche. Hier, j'ai bossé... je pense que j'ai bossé 5 heures hier parce que j'avais envie de créer quelque chose. Et je me suis dit, il pleut, je suis chez moi, je suis très bien. Je vais créer quelque chose et c'est 5 heures, tu vois. Là, ce matin, j'ai pas fait énormément. Bon, tu vas me dire, j'ai tourné.
J'ai pas eu le temps de regarder tes stories encore. Il est trop tôt. On sait pas encore ce que t'as fait.
C'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais au final, tu vois, par exemple, ma matinée, généralement, jusqu'à 11 heures, je fais rien, qui soit du travail. À part passer des stories, pour moi, la story, c'est pas, je le vis pas du tout comme un travail.
Oui,
être sur Instagram, pour moi, c'est pas un travail. Ouais. Mais il y a des gens qui le vivent vraiment comme une obligation, une contrainte, parce que c'est pas quelque chose qu'ils aiment faire. Et je peux l'entendre complètement. Mais si je partage autant, sur Instagram, c'est vraiment, il y a aucune discipline derrière. C'est juste le plaisir de partager ce que je vis au quotidien. Et de pouvoir connecter. Mais c'est vrai que tu vois, le matin, je me lève très tôt. Le lundi, j'envoie ma newsletter. Généralement, j'ai des petits posts à faire sur le groupe Facebook. Donc, je les fais. Ça va me prendre une heure. Trois quarts d'heure, une heure, je pars à la salle et puis après je rentre, je fais mes courses, je prends mon petit déj et après je m'installe et à peu près 11h-15, 11h et je commence à travailler, tu vois. Et tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est trouver le rythme qui te correspond à toi en fonction de ton énergie, en fait.
Moi, je sais qu'effectivement, c'est ça qui a fait toute la différence, quoi. Et une fois qu'on se connaît bien, qu'on connaît son énergie, sur les périodes où on sait que, là, ça marchera pas, plutôt que de passer 3 heures sur un truc de buter, tu le reprends le lendemain matin et en une demi-heure, c'est fini, quoi. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Et effectivement, c'est pas parce que je travaille un plus grand nombre d'heures que je vais forcément être plus efficace, en fait.
Non. En plus, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai appris aussi en entreprise parce que je me rappelle à l'époque, j'avais un collègue de travail, il voulait à tout prix, c'était très ridicule, mais il voulait tout le temps être le dernier à quitter le bureau. Parce que dans la société et en particulier dans la culture française, si tu finis le travail tard, ça veut dire que tu es la personne qui a
bien
travaillé, qui a mieux travaillé.
Ouais, exactement.
Alors qu'il faisait ses factures et il faisait son shopping en ligne. Donc, j'ai envie de te dire, si c'est ça, rentre chez toi, en fait, et va profiter de ta vie, en fait, tu vois. Donc, non, ça, pour le coup, en plus, moi, en plus, j'arrête de travailler généralement à 18h. 18h, c'est l'heure à laquelle je ferme mon ordinateur. Et je travaille plus après 18h. Quand je coupe l'ordinateur, que je commence à ouvrir des bouquins, à regarder des séries, il n'y a plus de travail. C'est important aussi de se mettre ce truc-là parce que sinon, vous pouvez bosser super tard.
Exactement. Après, je pense que c'est OK de passer aussi par des phases comme ça, notamment quand on démarre, parce que en même temps, on est dans l'effervescence. On a aussi l'énergie à ce moment-là quand on démarre nos projets, mais pour tenir justement dans la durée et pour aboutir, Il faut après savoir se préserver, puisque finalement, ouais, on est notre principal moteur hein, quand on a notre propre activité. Donc voilà, je pense que c'est aussi normal hein, au début de se perdre, de pas trouver son rythme, de faire plus d'heures, etc. Et ça fait partie du processus d'apprentissage. Mmh. Et puis à un moment donné, justement, commencer à organiser un petit peu aussi tout ça. Mmh. Et surtout, en ne s'oubliant pas, effectivement, soi-même. Et j'aime bien, moi aussi, l'idée de commencer ma journée par un moment pour moi, de sport, de yoga ou autre. Au moins, je suis sûre qu'il fait partie de ma journée, de ne pas me laisser déborder par le reste après et de réussir à intégrer ça. Donc, j'ai un peu le même rythme que toi par rapport à ça. Mais après, encore une fois, on peut très bien aussi être un oiseau de nuit. L'idée, c'est juste de bien organiser les choses et de gérer en fonction de son énergie. Et j'avais envie de revenir alors sur le... Du coup, sur ton membership, justement, donc ton abonnement, ton studio en ligne, parce que bah, effectivement, moi, j'apprends à créer aux professeurs de yoga, donc soit des memberships, soit des programmes un peu style programme de coaching collectif en ligne, soit des plus petites offres aussi. Hein. Mais du coup, j'avais un petit peu suivi l'histoire du studio, donc qui à la base de mémoire était un programme, en fait. Je crois que tu as eu un petit loupé au niveau de tes data, tu as perdu des données ou quoi, enfin des choses sur lesquelles tu avais travaillé. Et du coup, ça s'est converti en abonnement mensuel. Donc, je voulais savoir, moi, aujourd'hui, un petit peu ce que tu penses de ce modèle et quels sont, selon toi, un petit peu les avantages de ce modèle. Mais en même temps, est-ce que, voilà, il y a aussi peut-être des inconvénients, des limites ou des choses versus peut-être un autre type de programme en ligne ou peut-être l'idée, d'ailleurs, que tu avais au début.
Bah, et on en revient à ce qu'on se disait, c'est quel est ton objectif, en fait? Pourquoi tu le fais? J'avais commencé à créer ce programme parce que bah, c'est vrai que c'était un peu ce que tout le monde faisait, créer des programmes, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, par la perte de toutes les données que j'avais quasiment à 30, terminé mon programme, en fait. Et je sais pas, je devais avoir une cinquantaine de vidéos et en fait, mon disque dur externe a littéralement crashé sur l'export de la dernière vidéo. J'étais partie à la salle et je suis rentrée dead. Et en fait, je me suis dit, en fait, bon, ok, pourquoi ça arrive? Ça arrive pour une raison.
C'est le cadeau caché.
Et, ouais, et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que j'avais pas envie de faire ça. J'avais pas envie d'uploader un programme que les gens allaient acheter. Et je sais pas qui a acheté, je sais pas ce qu'elles vont en faire. Ça m'intéressait pas, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, t'es pas une vendeuse, t'es pas, je suis pas une businesswoman. Enfin, c'est pas mon créneau. Moi, je le rappelle tout le temps. Si je suis professeure de yoga et si je fais tout ça, c'est parce que j'aime donner. Je veux donner. Je veux partager. Je veux avoir cette connexion. Et je me suis dit, ok, quel est le modèle qui va me permettre d'avoir cette connexion, de rencontrer mes élèves? Bah, l'abonnement, en fait. C'est pour ça que j'ai des lives. Je pouvais pas faire un truc 100% live à la base. Mon idée de base, c'était de faire du 100% live. Mais c'est vrai que avec les décalages horaires et on ne pratique pas tout au même moment, tu vois, il y en a qui aiment bien, il y en a qui se lèvent très tôt, elles vont pratiquer à 6h, 6h30 avant d'aller au travail. Il y en a, elles se lèvent un petit peu plus tard, elles vont avoir préféré peut-être pratiquer à 10h. Il y en a, c'est le soir en rentrant. Bref, c'était pas possible, c'était pas trop compatible. Donc, j'ai trouvé cet équilibre justement entre à la fois créer de la nouveauté et pouvoir offrir en continu les choses et en même temps construire une communauté d'élèves qui va grandir avec moi. Donc, à la fois, moi, je grandis en tant que professeur parce que j'apprends à leur côté. Et en même temps, elles, je les vois progresser. Et comme il y a un noyau qui grandit, mais tout le contenu que je crée, il est en réponse directe à leurs besoins et à ce qu'elles me demandent et de ce que je vois. Et quand je dis ce qu'elles me demandent, elles vont pas forcément aller l'exprimer. Alors, j'ai des filles qui vont me dire, Marine, est-ce que tu pourrais faire un cours sur ça? Bon, bah, parfait.
L'audience tu vois, est souvent silencieuse. C'est vrai.
L'audience est souvent silencieuse parce que l'audience ne sait pas ce qu'elle veut. C'est aussi ton travail,
en fait,
tant que prof de yoga. Si tu vois que, elle galère un petit peu plus sur une posture en particulier, c'est ce que j'avais fait la dernière fois où je voyais que le pont, je voyais beaucoup de débats. On a un groupe Facebook, donc je voyais beaucoup de débats, beaucoup de difficultés autour de cette posture. Ok, prochain live, on le fait sur le pont et on regarde tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'arriver à sortir un petit peu la tête de l'eau et de se dire, ok, de quoi elles ont besoin et comment je peux répondre au mieux à leurs besoins pour réellement les aider. Parce que c'est ça le but, en ligne c'est génial, mais il faut savoir utiliser la plateforme correctement pour pouvoir rendre tout ça utile.
Oui, et puis rendre tout ça, justement, comme tu le disais aussi, et c'est l'avantage très interactif. Enfin, même si elle te le demande pas, c'est toi, tu sais que tu vas, voilà, t'es vraiment à l'écoute de leurs échanges, de leurs retours, peut-être des vues aussi de certaines vidéos et moins que d'autres, si tu peux les tracer ou autre. Et c'est ça qui te permet, voilà, d'être dans l'amélioration continue et de proposer des choses dont elles ont besoin. Et du coup, par contre, tu extrais donc des fois quand même quelques, comme par exemple les dernières vidéos de méditation qui sont disponibles dans ton studio. On peut aussi les acheter, en fait, même si on n'est pas membre du studio. Donc ça, quelque part, c'est un peu la vente de petits programmes, on va dire, en plus de ton membership.
Ouais, alors ça, je l'ai fait, en fait, parce que tous les 2 mois sur le studio, je fais ce que j'appelle des séries.
Oui.
Qui vont être, en effet, disponibles à l'achat sans être membre du studio. Mais une fois que, je laisse passer peut-être 1 ou 2 semaines après la fin du mois, parce que généralement, la série, en fait, elle est publiée sur le mois. Après, cette offre-là, elle disparaît.
D'accord, ouais. C'est pas permanent.
Non, parce que déjà, je t'avoue, c'est un côté pratique. Après, il y a beaucoup trop de choses, en fait, sur ma plateforme, mais c'est pas gérable, en fait, d'avoir... Parce que des séries, j'en ai prévu plein. Donc, si je me retrouve avec 15 séries achetées individuellement, enfin, c'est pas le but. Le but, quand je fais ça, et c'est le but de faire ces séries sur le studio, c'est déjà pour avoir des petits programmes spécifiques et c'est aussi pour que les gens viennent sur le studio. C'est mon objectif, qu'il y ait plus de gens. Parce que je pense que tu grandis beaucoup plus et tu te développes beaucoup plus quand tu fais partie d'un studio. Et généralement, c'est l'objectif qu'elles ont toutes. Après, je suis d'accord, tu peux avoir une bonne pratique et te dire, OK, bah moi, je prends mes cours en physique. Par contre, je suis intéressée par, je sais pas, le handstand. J'ai vu que Marine, elle lançait le mois prochain une série handstand. Et ben, soit j'achète la série directement à la sortie et je la fais plus tard, soit je rejoins le studio 1 mois, je fais la série pendant 1 mois et puis après je me désabonne et puis je perds accès. Tu vois, c'est pour moi, le studio, ça va aussi au-delà de pratiquer régulièrement, avoir une banque de cours. C'est aussi clairement une vraie communauté parce que quand tu es membre du studio, déjà, elles se rencontrent toutes, elles se voient toutes, elles discutent ensemble sur Facebook. Tu rencontres aussi des gens qui sont dans un univers qui te passionne. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé le yoga, j'avais aucune copine qui était dans le yoga. Quel bonheur d'aller au studio et de rencontrer des filles, des mecs qui font ça, quoi. Et y en a aussi beaucoup qui sont en reconversion professionnelle. Le yoga, c'est aussi une vraie source de guérison, de remise en question, de réflexion. Et dans cette étape de leur chemin de vie, elles se retrouvent un petit peu aussi ensemble. Et je trouve que c'est beau, en fait.
C'est l'avantage studio, d'une vraie communauté, ouais.
Ouais. C'est, pour moi, le studio, c'est plus que juste une plateforme en ligne. C'est vraiment c'est un cercle d'échange. C'est hyper bienveillant et on est toutes là pour se soutenir mutuellement. Elles sont tellement toutes hyper bienveillantes les unes avec les autres que c'est, je me dis, waouh, c'est trop bien, quoi.
Et du coup, quand tu extrais comme ça un programme, en fait, qu'on peut finalement acheter sans être membre du studio, c'est plutôt avec la vocation, on parlait tout à l'heure un petit peu de stratégie, d'objectif, c'est plutôt comme un produit d'appel, entre guillemets, pour donner envie ensuite de rejoindre le studio. Est-ce qu'on peut dire ça?
Bah, de toute façon, tout ce que je vais faire, si mon objectif c'est le studio, si je te dis, bah voilà, moi, tous mes efforts, toute mon énergie, je le mets sur le studio, tout ce que je vais faire autour va avoir pour vocation de donner envie de venir rejoindre le studio.
Ouais.
Tu vois, mais encore une fois, tu vois, YouTube, bah, ça me permet aussi de m'amuser avec des trucs un peu créatifs. Ça me permet de toucher des nouvelles personnes, mais ça ne veut pas forcément dire, il y en a, voilà, elles sont très contentes d'avoir un flow toutes les 2 semaines et puis ça suffit.
Oui, tout à fait.
Elles rejoindront jamais le studio et peu importe, ça, c'est pas grave, en fait. Encore une fois, c'est la volonté parce que je sais que la plateforme elle peut aider et je sais que le contenu qui y est utile et c'est plus comment je peux convaincre euh, que ce dont tu as besoin, je l'ai, parce que je comprends ce dont tu as besoin, mais ça se passe ici, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, on n'a pas forcément connaissance ou conscience que la réponse, elle se trouve quelque part. Et voilà, c'est juste de donner une direction à tout ça.
Non, mais c'est intéressant parce que le programme, enfin le business model, voilà, de l'abonnement en soi, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Il y a la façon aussi dont on va effectivement gérer, hein, finalement ce que j'appelle moi le customer care, mais c'est voilà, c'est comment on va gérer notre communauté, nos clients à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est super important. Et tu disais tout à l'heure que du coup au sein du studio, c'est un noyau qui grandit. Alors justement, souvent je vais pas dire la problématique des memberships, mais peut-être un peu l'appréhension au début, c'est bah, les élèves qui s'en vont. Alors effectivement, ça veut dire qu'il faut en permanence attirer de nouveaux élèves et le mieux, c'est encore voilà, d'en avoir le moins possible qui partent pour les fidéliser au mieux. Et ça, est-ce que tu aurais des conseils peut-être par rapport à ça, enfin...
Alors déjà, il faut se dire que c'est pas parce que quelqu'un s'en va que ce que tu fais c'est pas bien. Moi au début c'était un petit peu difficile parce que quand je voyais des personnes qui partaient, je me disais ah bah ça veut dire que beaucoup pour moi la difficulté, ce qui était dur pour moi, c'était de me dire que j'avais pas pu les aider ou j'avais pas pu leur offrir ce qu'elles voulaient. Et moi c'était plus dans cette remise en question là. Et puis maintenant, c'est amusant et je trouve ça tellement mignon et bienveillant. Généralement, elle m'envoie un petit mail pour me dire pourquoi elle se désabonne.
Ouais.
Elle me dit, je vais revenir, mais voilà, voilà, voilà. Parce que je pense qu'aussi, j'ai créé un lien quand même de proximité. Je suis quand même très présente. C'est moi qui suis là, c'est moi qui réponds à tous les mails, c'est moi qui réponds à tous les messages.
Donc, ça, c'est génial.
Quand tu fais ça, en fait, mais encore une fois, c'est ce que je te dis, parce que pour moi, c'est pas des clientes, en fait, c'est mes élèves. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai organisé la retraite l'année prochaine, parce que je meurs à l'idée
de les rencontrer.
Ouais, c'est ça. Parce que ça reste un métier humain avant tout. Mais ouais, sinon c'est pour moi c'est la clé, ça reste quand même la créativité. Revenir toujours avec des idées différentes, des idées nouvelles. Et si ton idée tu la trouves géniale, si ton idée elle t'excite, elle va être excitante pour les autres. Si tu portes ton projet avec joie et amour, les gens, ils y trouveront de la joie et de l'amour, en fait, tout simplement.
Donc, pour attirer des nouveaux clients, joie, amour et créativité.
Merci, voilà. Et beaucoup de yoga,
s'il vous plaît. Des nouveaux élèves. Et beaucoup de yoga, il ne faut pas oublier quand même dans l'histoire. Évidemment, je pense que quand même, tu as effectivement tout le contenu que tu crées autour. Mais bon, voilà, on en a parlé et on a, mais c'est intéressant parce que du coup, on est sur un cas concret. Et forcément que ta stratégie de contenu, en plus de ta passion, en plus d'être présente et régulière, voilà, de partager, d'interagir, de trouver ce dont de trouver ce dont tes élèves ont besoin, ça c'est sur la partie créative, mais je pense que voilà, le fait ta stratégie de contenu aussi contribue à t'apporter des nouveaux clients en permanence, enfin, c'est-à-dire que voilà, t'es toujours là quand même, je pense qu'on disait tout à l'heure la régularité, mais à un moment donné, c'est ce qui fait aussi que les gens te découvrent, te connaissent. Je crois que tu fais pas de publicité, c'est que de l'organique. Donc voilà, c'est que de l'organique, tu es toute seule. Donc, c'est un petit peu tous les ingrédients dont on a parlé aujourd'hui qui font que les personnes s'abonnent, viennent faire du yoga avec toi et puis surtout restent tes élèves un petit peu plus sur le long terme. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée de pas prendre pour soi le fait que les gens des fois partent d'un abonnement, mais souvent aussi comme tu l'as très justement dit, reviennent aussi, donc c'est ok.
Ouais, et puis tu sais, on est énormément de profs de yoga, ce qui fait la différence c'est juste la personnalité, donc que ce soit là-dedans ou dans la vie de tous les jours, on ne plaît pas à tout le monde, c'est ok.
Oui, il y a ça aussi, ouais, bien sûr. Non, mais même des fois, les gens ont aussi on a des impératifs de vie ou on a envie peut-être de s'abonner à autre chose, même sur un autre sujet à un moment donné de notre année. Enfin, voilà, moi, je sais que je m'abonne régulièrement à des memberships pour parler, voilà, en langage technique. Et puis, je me désabonne aussi. C'est pas parce que j'aime pas, c'est parce que, bah, à ce moment-là, j'avais besoin de ça, mais je suis aussi curieuse, donc j'ai envie de découvrir d'autres choses. Et c'est pas pour ça que j'y reviendrai pas. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut accepter ce mouvement aussi. Des élèves, mais à partir du moment où à côté de ça, on continue en permanence, voilà, à faire ce qu'il faut, à suivre le plan entre guillemets, voilà, pour attirer et se faire connaître de nouvelles personnes et de nouveaux élèves, et qu'on apporte effectivement ce dont ils ont besoin, qu'on s'occupe, qu'on écoute bien ce qu'ils veulent, bah, je pense que voilà, ça fonctionne. Après, il y a aussi voilà la stratégie des petits pas, hein, ça va fonctionner sur la durée. Il faut pas lâcher. Quoi. Donc non, c'était super intéressant. Et du coup, alors, c'est toi qui vas choisir. On terminera après par ta vision pour Luna et pour toi, que tu nous parles éventuellement des projets. Mais avant de se quitter, j'avais envie que tu nous partages, parce que enfin, moi, je suis amoureuse de tes mots. Je trouve que voilà, tu écris tellement bien, que ce soit dans tes légendes Instagram ou alors ta newsletter. Vraiment, je crois que c'est une des seules que je lis de A à Z. Je suis fan. Et du coup, j'avais envie que tu nous partages un petit exercice de journaling, en fait, parce que je pense que tu en fais beaucoup et je pense que ça aide aussi beaucoup et ça développe la créativité, l'inspiration. Alors, soit pour retrouver de la clarté, voilà, si on se sent submergé, pas aligné, éparpillé ou autre, soit pour la créativité. Voilà, je te laisse le choix d'un exercice de journaling que tu pourrais nous partager. Donc, soit pour retrouver de la clarté, soit pour enrichir, enfin, donner naissance à cette créativité. Ouais.
Alors, pour moi, la clarté, tu la retrouves déjà quand tu fais un peu le tri dans ta tête. Donc, pour moi, et ça, c'est un exercice que je fais quasiment tous les jours en fonction de comment je me sens, c'est trois questions. Donc, la première question, c'est comment je me sens. Deuxième question, comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui. Troisième question, qu'est-ce que je vais faire pour me sentir comme ça aujourd'hui? Et non seulement ça te permet en fait de placer une intention sur ta journée, de se dire ok, aussi, je me suis réveillée, je me suis sentie triste parce que voilà, mais aujourd'hui j'ai pas envie de me sentir triste. Ou peut-être aujourd'hui j'ai envie de me sentir triste. Aujourd'hui j'ai envie d'accueillir ma tristesse et c'est complètement ok. Donc par exemple, si j'ai envie de me sentir triste, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais rester chez moi, je vais me faire une bonne tisane, etc., etc. Et à l'inverse, si j'ai pas envie de me sentir triste, eh ben, je vais aller voir des amis, je vais sortir, etc., etc. Donc en fait, et pour moi la clarté en fait d'esprit global, tu la trouves en étant ok avec qui tu es à l'instant T et en étant pleinement consciente de là où tu te trouves aujourd'hui. Si tu passes ta journée à nier ce que tu ressens, ce que tu penses, tu seras jamais dans ton instant présent et tu manqueras de clarté sur tout ce qui va se passer dans ta journée. Versus, ok, je sais que ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas d'humeur, je sais que j'ai envie de voir personne, je sais, j'en suis consciente. Donc, au moins, je fais attention à tout ce que je vais passer, ce que je vais dire dans ma journée. Oui. Et j'ai cette clarté d'esprit de prendre des décisions tout au long de ma journée qui vont me permettre de me sentir bien et de faire en sorte que ma journée, quand même, se passe bien. Voilà.
Super. Bon, bah, les questions sont notées. Je crois d'ailleurs que tu as un petit programme hein, sur le journaling.
Ouais. J'avais créé un e-book. C'est un gros e-book que j'ai appelé un programme. Il est vraiment gros. Il fait 150 pages. Et d'ailleurs, il y a une partie, la première partie, c'est une partie productivité. Donc, je t'aide justement à t'organiser, à te structurer par l'écriture. Donc, ça, c'est très bien. C'est des super exercices. Tu peux l'imprimer. Je recommande d'ailleurs de l'imprimer et ensuite de le remplir vraiment comme un agenda qui t'accompagnerait, qui t'accompagnerait toute ta vie. Et la deuxième partie, c'est plus un journal d'émotions où là, pour le coup, j'ai classé par thème. Alors aujourd'hui, je suis stressée. Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à m'aimer. Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à gérer mes émotions. Et thème par thème, justement, tu peux choisir. Il y a 1, 2, 3 exercices différents. Il y a aussi plein de routines. Donc voilà, c'est quand même 150 pages. Donc c'est vraiment, je le considère comme un programme. Et je sais que mes élèves, elles l'utilisent tout autant dans leur routine que dérouler leur tapis et faire les vidéos de yoga, quoi.
Ouais, ça c'est un super truc, je trouve. Okay. C'est pas dans le studio, hein. C'est vraiment on l'a, enfin c'est un
à part,
mais qu'on peut retrouver effectivement. Ok, bon, en tout cas merci de nous avoir partagé ce bel exercice de journaling. Vraiment, ça me tenait à cœur de finir sur ce petit exercice là. J'espère que ça nous aidera. Et du coup, est-ce que pour terminer, tu peux nous parler de tes projets, de ce qui va arriver, en tout cas ce que tu connais qui va arriver?
Ah, il y a plein de choses qui vont arriver. J'adore, je me sens un petit peu fée, tu vois. Alors déjà, la prochaine série qui sort, c'est la série, je te donne en exclusivité le nom, la série qui va s'appeler « Magie ». Tout simplement parce que ça va être la magie de Noël. Je place toujours le mois de décembre sous le signe de la magie. Donc l'année dernière, j'avais fait un petit calendrier de l'avant. Cette année, j'ai voulu voir un peu plus gros parce que j'ai une belle plateforme. Donc la série sera disponible aussi à l'achat hors du studio. Mais voilà, il va y avoir plein de surprises. Ça va être un mois de cocooning, un mois d'amour de soi, un mois pour se faire du bien. Et c'est aussi un mois pour explorer des choses différentes en termes d'études de soi, en termes de connaissances. Donc, ça va être un mois riche. Ça va être un mois aussi gourmand. Ça va être un mois interactif. Ça va être un mois aussi rempli de cadeaux. Bref, je vais avoir des paillettes sur le mois de décembre. Donc, voilà, j'en dis pas plus.
Bon, donc, faut que je reste abonnée pour le mois de décembre. Voilà, ouais, comment faire du teasing. Ouais.
Si tu voulais quitter en décembre, tu pouvais au moins d'attendre la fin du mois de décembre. Parce que je pense que quand tu seras sur le mois de décembre sur le studio, tu seras très contente d'y rester. Et puis après, j'ai des séries. J'ai une série que j'ai commencé à travailler en février qui va être une série de pranayama. Et en avril, ce sera une série sur le handstand. Voilà, je révèle un peu. Mais c'est des choses sur lesquelles j'ai commencé à travailler. Donc, ça arrivera. J'ai ma retraite en mai prochain en France, sachant qu'elle a été bookée assez rapidement.
Je crois.
Ouais. On est 15 parce que je voulais aussi quand même garder un cercle intime. Par contre, je vais organiser, je pense, début juin en France, sûrement à Paris, un event de yoga. Donc, si jamais vous êtes sur Paris, que vous vouliez pratiquer du yoga avec moi en physique.
En live.
Je pense que je ferai quelque chose à Paris. Ouais. Un petit event. Voilà, c'est quelque chose aussi sur lequel je suis en train de réfléchir et d'organiser. Donc voilà. Mais il y a plein de choses qui vont arriver, c'est sûr. Il y a toujours des choses qui arrivent de toute manière. Voilà.
Il n'y a pas un petit programme en ligne ou il n'y a pas un petit projet d'accompagnement un peu, coaching
Ah oui. Alors, tu vois, justement, tu sais, tout à l'heure, quand on parlait des programmes où on se laisse un peu plus de temps, eh ben ça, c'est le gros programme sur lequel, en effet, je suis en train de travailler. Tu as complètement raison. Qui est un programme de coaching. Alors, c'est presque comme un teacher training, mais c'est pas un teacher training, tout simplement parce que, bon, je pourrais certifier des gens, mais je sais pas ce que j'ai... Voilà, c'est pas ma volonté. J'avais envie de faire quelque chose selon mes règles. Voilà, en tout cas, oui, voilà, pas tout de suite. Donc, ça va être un programme d'un mois sur 4 semaines uniquement avec des femmes. Ce sera 10 femmes qui seront sélectionnées et chaque semaine aura un module, un thème différent qui sera exploré. L'idée, c'est d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à mieux connaître le monde dans lequel on vit, de comprendre plein de choses sur l'aspect spirituel, anatomique du corps, etc., pour pouvoir développer une meilleure compréhension de soi, de ses objectifs de vie et de sa propre pratique de yoga. Comment je construis ma propre pratique de yoga pour qu'elle réponde à mes objectifs. Donc, ça va être un mélange un peu de développement personnel, de coaching individuel au sein d'un groupe collectif et de pratiques pragmatiques de yoga pour séquencer et voilà, et trouver cet équilibre un petit peu entre tout ça. Parce que je sais, comme je te disais, il y en a beaucoup qui sont en reconversion ou alors qui sont dans des phases de transition dans leur vie où il y a des choses qui sont un petit peu floues, et moi j'avais envie d'accompagner là-dessus. Donc ce sera, il y aura 4 lives collectifs dans le mois, il y en aura un par semaine. Et elles auront toutes aussi un live individuel au début et à la fin pour faire le point sur elles et sur le plan d'action qu'elles pourront mettre en œuvre dans leur vie concrètement pour donner vie à leurs rêves. Parce que c'est ça aussi qui est beau et c'est ce que j'ai envie. C'est pour ça que je vais le faire sur sélection, parce que je veux que ce soit des femmes qui soient vraiment motivées pour passer à l'action, pour changer ce qu'elles ont à changer. Que ce soit dérouler ton tapis tous les jours ou déménager à l'autre bout du monde, il n'y a pas de petits ou de,
oui,
ou de
oui,
grands
bien
objectifs,
sûr.
Mais au moins initier un changement dans sa vie pour se sentir bien, ouais. C'est empowering.
Ouais, yes. Oui, mais voilà. Donc j'avais lu ça entre les lignes, j'avais envie que tu nous en parles. C'était un bon exercice, tu vois. Tu nous l'as bien pitché.
C'est un très gros projet au sens où il y a beaucoup de choses que je crée et j'ai un timing en tête. Je ne pense pas que je rentrerai dans ce timing parce que je pense qu'il est trop irréaliste. Et j'ai vraiment envie de peaufiner parce que je pense que je l'ouvrirai 2 fois par an et je le répéterai. Donc, je veux qu'il soit installé, qu'il soit comme je l'imagine et qu'il soit parfait. Alors, bien évidemment, il va s'améliorer avec le temps et avec les expériences. Mais le but, c'était de comment je peux aider à une échelle encore plus grande que juste, entre guillemets, une pratique physique. Comment je peux t'aider à passer à l'action.
J'adore. Bon, bah, peut-être que je
candidate. C'est la première à savoir.
Bah, écoute, voilà. Non, mais j'avais vraiment envie que tu nous en parles. D'abord, parce que voilà, j'avais envie de connaître un petit peu l'objectif et ce qu'il y aurait à l'intérieur de ce programme. Et puis, bah, aussi parce que je trouve ça inspirant. Et moi, effectivement, dans Yogi Bizline, donc, j'apprends à développer, soit une offre d'abonnement, soit aussi des programmes de coaching collectif comme ça qui ont en fait une autre vocation, comme là par exemple, toi, c'est d'aider des femmes qui peuvent être à un moment donné de transformation de leur vie ou qui veulent initier un changement, et en fait tu vas les aider grâce à un accompagnement grâce au yoga, mais le yoga devient un outil pour servir en fait un autre objectif, un autre désir. Et moi, c'est vraiment ce que j'enseigne dans Yogi Bizline, c'est créer des programmes où le yoga est un outil, mais la finalité, en fait, c'est d'accompagner les personnes sur un sujet qui nous tient à cœur, qui relève peut-être de notre propre expérience ou peut-être de quelqu'un qu'on a vu dans notre entourage, peut-être galérer sur un sujet ou autre. Et du coup, nous, on sait que grâce au yoga, mais grâce aussi à du coaching collectif, grâce à d'autres outils sur lesquels on est formé ou sur lesquels on a des compétences ou de l'expérience, on va pouvoir venir packager en fait une offre d'accompagnement qui va aider, dans une mission plus large que juste enseigner le yoga, entre guillemets, même si c'est merveilleux. Mais que ça peut contribuer à encore plus grand, encore plus fort, quoi. Donc c'était super intéressant d'avoir cet exemple-là. Donc, on va suivre ça de près. En tout cas, Marine, écoute, un énorme merci à toi. Tu nous as vraiment livré plein de pépites. C'était hyper agréable, cet échange avec toi.
Ce qui est génial, c'est que j'ai vu le jour se lever derrière toi. Donc, ça, c'est magnifique.
Et ben voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invitée. C'était hyper enrichissant et j'espère que ce que j'ai partagé pourra aider, pourra inspirer.
C'est certain. Merci Marine, merci à toi, bye bye.
Si tu nous as écoutés jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à nous le faire savoir en le partageant en story et en nous taguant Marine et moi ou en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. Tu trouveras également tous les liens dans les notes de cet épisode pour te connecter avec Marine, la retrouver sur Instagram, sur sa chaîne YouTube, écouter son podcast Off the Mat ou encore rejoindre son studio de yoga en ligne et ses différents programmes. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.